Voilà, bonjour à tous, bonjour Hugues. Et
Bonjour, Martinson.
voilà, nous sommes là pour les émissions Khazak Khazak Vini Trazek. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et
Excellent, merci.
excellentes vacances, super. Et voilà, nous sommes prêts à reprendre les émissions. Et nous allons parler aujourd'hui du mois de Elul. Elul, qui est un mois très important, le mois hébraïque. Et donc, on va un petit peu parler donc de la signification du mois de Elul, ce que ça représente, ce que ça comporte. Et après, on va parler un petit peu aussi donc de la préparation pour Rosh Hashanah.
Oui, je rappelle aussi rappelle que nous avions quitté nos auditeurs à l'été lorsque nous lisions les parachutes des différents grands soucis que Moshe Rabbeinu a rencontrés dans le désert avec un certain nombre de personnages dont nous avons parlé abondamment. Et nous nous retrouvons maintenant au mois d'Elul, comme vous venez de le dire. Nous sommes pratiquement jour pour jour à 15 jours de Rosh Hashanah. Ça coïncide aussi avec le dernier livre de la Torah et les dernières instructions, je dirais que Moïse donne au peuple, puisqu'il sait déjà qu'il ne va pas pouvoir rentrer dans la terre d'Israël. Il fait part au peuple du rôle et du devoir que le peuple juif doit désormais accomplir et de ce qui va se passer s'il ne le fait pas.
Et
Et nous
d'ailleurs,
allons.
on voit des prophéties extraordinaires, hein. Il a prédit beaucoup de choses, hein. Ça, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé.
C'est frappant en effet de lire, pour ceux qui viennent le Shabbat à la synagogue, c'est frappant de lire, de voir que toutes les prédictions qu'il fait, et notamment les malédictions qui vont s'abattre sur le peuple juif qu'il fait, bon, en fait, l'histoire nous l'a montré, vont se réaliser.
Malheureusement.
Mais ce livre correspond, comme vous l'avez dit, avec le mois de Elul, qui est un mois particulier. Et donc, Rapidson, expliquez-nous donc pourquoi ce mois est-il si particulier, si important avant le fameux mois de Tishri, la fameuse convocation de Tishri, nous sommes tous conviés à nous repentir.
Voilà, alors vous savez que le mois de Elul, c'est le dernier mois du calendrier juif, puisque le calendrier juif commence par Tishri.
Oui,
Donc,
et attention, c'est le dernier mois du calendrier, je dirais, hébraïque, mais c'est le sixième mois, selon le calendrier religieux, puisque ça dépend aussi selon comment on compte les mois.
alors vous savez, il y a deux possibilités de compter les mois. Il y a les mois que l'on considère par rapport à la nomination des rois, les années des rois. Il y a différents Rosh Hashanah pour les fruits, etc. Mais concernant le calendrier religieux, donc Tishri étant le premier mois et Rosh Hashanah qui commence par Rosh Hashanah, c'est le premier du mois de Tishri, et le mois de Elul, les derniers mois avant le mois de Tishri qui entame le nouvel année. Alors vous savez que dans le judaïsme, la veille d'un événement important est toujours liée avec cet événement. Par exemple, pour Shabbat, on célèbre Shabbat, mais en fait, la fête de Shabbat commence déjà à Erev Shabbat. On l'appelle la veille de Shabbat. C'est la préparation. On se prépare spirituellement, physiquement, par la cuisine, etc. On arrête de travailler plus tôt. On se prépare. Et donc, vous voyez, donc il y a toujours un lien entre Erev Shabbat et le jour du Shabbat. D'ailleurs, le Talmud nous dit, celui qui se prépare le Shabbat à Erev Shabbat, c'est celui qui mérite de célébrer le Shabbat. Parce que rentrer au jour saint de Shabbat sans préparation, c'est venir comme ça à une fête sans cadeau. Et donc, il faut se préparer. Donc déjà, on a un lien entre Erev Shabbat et Shabbat, entre Erev Rosh Hashanah, entre le mois qui précède Rosh Hashanah et le nouvel an. Alors, c'est le mois qui relie donc l'année écoulée et l'année à venir. Alors, c'est une période où nous réfléchissons à notre situation et à notre devenir. C'est un moment d'introspection, un temps pour auditer les comptes spirituels et faire le bilan de l'année passée. Voilà, il faut faire la comptabilité. C'est le mois de la. Il faut se préparer pour les déclarations. Un temps pour se préparer donc pour les jours solennels de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et qu'est-ce qu'on demande à l'individu? C'est de se repentir des manquements du passé. et prendre des bonnes résolutions, des bonnes dispositions pour l'avenir.
D'accord. Alors, on appelle ce mois, rapidement, vous me corrigez si je me trompe, le mois de la repentance, le mois de la miséricorde, voire même le mois du pardon, ce qui est quand même un peu redondant avec Tishri. Pourquoi est-ce que ce mois de Elul est donc, je dirais, si particulier à tel point qu'on l'appelle déjà le mois de la repentance?
Voilà, alors vous savez que nous avons reçu, le peuple juif a reçu la Torah le 6 du mois de Sivan. C'est la fête de Shavuot. Et Moshe Rabbeinu est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Il n'est descendu que le 17 Tammuz. Donc 40 jours après Vav Sivan, c'est le 17 Tammuz. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le peuple a commis le péché du veau d'or. Hein, on a déjà parlé.
On a beaucoup parlé.
Et donc, voilà. Et donc Moshe Rabbeinu va remonter deux fois. Il va rester encore deux fois 40 jours. Et à Yom Kippour, c'est la troisième fois où Dieu va lui dire « Salarti kidvarecha »« Je te pardonne » et il lui donne les secondes tables. Et donc, la deuxième fois où il monte, la troisième fois, je m'excuse, où il monte sur le mont Sinaï, c'était Rosh Chodesh Elul. Donc de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours, puisque le mois de Elul, il y a 30 jours, et Kippour, c'est le 10 du mois de Tishri. Donc la troisième fois, lorsqu'il monte pour compléter la Teshuvah, la repentance, pour se faire pardonner le peuple, donc ça se fait donc à partir du mois de Elul, Rosh Chodesh Elul, donc Dieu manifesta en ces jours une grande miséricorde. Et donc depuis lors, cette période-là, donc elle commence à partir de Rosh Chodesh Elul, elle n'est pas que le mois de Elul, c'est Elul et aussi suivi par les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah. C'est un temps de miséricorde, de pardon, et c'est un temps, un moment opportun pour la Teshuvah, le repentir.
Oui, enfin, cela aussi veut surtout dire, Robinson, c'est que le repentir, la repentance, c'est pas, je dirais, le fruit d'un petit instant de réflexion, de quelque chose de spontané qui nous vient soudainement à l'esprit en se disant, tiens, ben, je vais changer. Et non, c'est le fruit je dirais, d'une réflexion. C'est d'abord une prise de conscience. Tout ça, ça prend du temps. Tout ça, pour que ça mûrisse dans la tête, il faut une véritable, je dirais, introspection personnelle pour commencer doucement, je dirais, à se rendre compte qu'on est peut-être dans le mauvais chemin. Messillat Yesharim nous enseigne que la première chose, la première étape sur le chemin de la tchouva, c'est déjà la prise de conscience. Et
Bien
ça
sûr.
prend du temps.
Bien sûr. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a une préparation, la prise de conscience, le travail de soi. Mais la décision, déjà, commence au moment où la personne prend, il a une prise de conscience, il prend conscience de ce qui se passe, et il décide d'arrêter le mal qu'il fait. C'est déjà le début de la Teshuvah. Alors, on parle, la Teshuvah, c'est un processus, donc il y a un début. Le début, c'est au moment où il arrête de faire, il se dit, je regrette, je ne veux plus faire, et à partir de maintenant, je me conduirai différemment. Ça, c'est déjà la base, si on peut dire, le socle de la Teshuvah. Et naturellement, il y a un travail à faire pour renforcer, pour construire sur cette base.
Alors, on est dans le mois de cette préparation, je dirais, à la tshuva, à la réflexion. On aura l'occasion d'en reparler beaucoup lorsqu'on va évoquer Rosh Hashanah dans les prochaines semaines. Elul est un nom un peu spécial puisque, Robinson, il est l'acronyme, c'est un acronyme du fameux cantique, des cantiques, enfin plutôt je dirais, d'un verset célèbre du cantique des cantiques, Shir HaShirim. Ani le dodi ve dodi li. Donc, ces premières lettres forment le mot Elul. Rappelez-nous ce que veut dire Ani le dodi ve dodi li et quelle est je dirais, pourquoi Elul, je dirais, en est sa représentation.
Alors, Ani le Dodi, c'est-à-dire je suis à mon bien-aimé, Vedodili, et mon bien-aimé est à moi. Alors, le mot Dodi, faites attention, il peut se comprendre à Dodcheli en hébreu, veut dire mon oncle. Mais en vérité, ça ne veut pas dire mon oncle, ça vient du mot Yedid. Yedid, c'est un ami proche. Hein? Donc, Yedidi, Ani le Dodi, c'est-à-dire c'est dans le sens où celui qui est proche de moi, mon bien-aimé. Et alors, vous savez que le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, retrace, souligne, développe, parle, chante, décrit l'amour d'un mari envers son épouse et vice-versa, qui représente l'amour de Dieu envers son peuple et vice-versa du peuple envers Dieu. Et donc, lorsqu'on dit « Agnile de Dieu », lorsque le roi Salomon dit « Agnile de Dieu », c'est-à-dire il fait parler le peuple qui dit « Je suis à mon bien-aimé », c'est-à-dire que nous nous approchons de Dieu avec le désir de revenir à lui et de nous connecter à lui. Agnile de Dieu, donc il y a ce mouvement-là d'élévation du bas vers le haut, je me rattache à Dieu. Puis, et mon bien-aimé est pour moi. Donc Dieu répond à travers la manifestation de sa miséricorde et de son pardon. Et donc vous avez, donc c'est le lien, Anil et Dedivedeli, symbolise bien justement la spécificité de ce mois qui est si important, parce que c'est le mois du rapprochement. Et donc il ne faut pas surtout rater cette occasion de vraiment de remettre les choses en ordre avec Dieu, de rétablir notre relation avec Dieu. Alors, je voudrais rajouter, si vous permettez, c'est que nos saints nous disent aussi que le mois de Elul, Hameler Basadeh, c'est-à-dire le roi se trouve dans les champs. Donc, c'est un mois propice à la... En d'autres termes, dans cet exemple-là, le roi étant durant toute l'année dans son palais, impossible d'avoir accès à lui, sauf les ministres et certaines personnalités, mais le peuple... Amra, le peuple ne peut pas rencontrer le roi, mais une fois par an, pendant un mois, le mois de Elul, le roi sort de son palais et va lui-même à la rencontre de son peuple, des agriculteurs, de ceux qui se trouvent dans les champs. Et donc, et chacun a la possibilité de le rencontrer et Dieu est facilement accessible. Il entend nos demandes, il écoute nos prières pour la nouvelle année. Donc, c'est un moment vraiment de rencontre. Alors, vous savez, lorsqu'on dit le roi se trouve dans les champs, c'est-à-dire que la personne travaille dans le champ. Oui, ça peut être un champ de blé, ça peut être aussi le champ de la banque ou de la métallurgie, le champ des bureaux, de la médecine, de la publicité. C'est ça qui veut dire le champ. C'est là où se trouve la personne. Alors, ce qui est très important, et avec ça, je vais répondre à la question, c'est que vous savez, dans le calendrier juif, on distingue deux sortes de temps. Le temps profane et le temps kodesh, le temps saint. Alors vous avez les 6 jours de la semaine, ce sont des jours profanes, et le Shabbat et les fêtes sont des exemples du temps saint. Or, ce qui se passe ici, c'est que vous avez la rencontre du saint qui vient dans les champs. Donc ici, c'est le profane qui se transforme et la sainteté pénètre dans le champ. Donc, il n'y a pas deux temps. Le Elul, c'est le mariage, c'est la rencontre, c'est le trait d'union. Dans un seul temps, c'est le temps profane plus le temps saint qui se marie, si on peut dire. Et donc, finalement, ce que le mois d'Elul nous rappelle, c'est que la différence entre les temps sacrés et les temps profanes de notre vie n'est pas une différence essentielle, c'est une différence de perspective. Et donc, dans la perspective, c'est de la manière dont on voit les choses, dans la manière dont on se conduit. Et c'est là le mois de Elul. C'est pour ça que c'est un mois si important.
Alors, Elul se caractérise aussi par le fait que c'est un mois où il ne s'y passe pas de choses, je dirais, importantes. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de, je dirais, d'injonction particulière qui est demandée au mois d'Elul. Mais il y a quand même des choses à faire pendant le mois d'Elul qui sont quand même ont leur importance. Rappelez-nous, Rapidson, quelles sont les coutumes, les minagim qui sont liées à ce mois particulier où il n'y a pas particulièrement de choses qui se passent.
Alors, je dirais 5 choses qui sont très importantes, qu'il faudrait retenir. D'abord, c'est que durant le mois de Elul, il faut entendre la sonnerie du shofar chaque jour. Alors, on ne sonne pas toutes les partitions qu'on sonne à Rosh Hashanah, mais un début, une introduction du shofar pour nous rappeler c'est quoi le shofar, c'est la sonnette, c'est l'alarme, réveille-toi. Hein, donc, voilà, et donc il faut un petit peu bouger, il faut, voilà. Donc c'est un appel, c'est un cri où on appelle l'individu à revenir à la raison, si on peut dire, la raison de son existence. Ouais, puis après,
nous sonnons du chauffard tous les jours, tous les matins.
Tous les matins après la prière. Alors, à l'issue de la sonnerie de chauffard, il est coutume aussi de réciter le matin et l'après-midi, le soir, le psaume 27, qui commence, les psaumes du roi David, qui commence avec les mots Le Seigneur, les David Hachem Ori, Veishi, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors, c'est très important de se rappeler que vraiment, Dieu est notre salut, c'est ma lumière. Et donc, je m'attache à lui. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y avait un grand kabbaliste qui a écrit en 1706, il s'appelle Rabbi Binyamin Benish Cohen, a écrit dans son livre en 1706 que celui qui récite ce psaume avec une concentration verra ses prières exaucées et que ce psaume a le pouvoir d'annuler les décrets divins. Et c'est pour ça qu'il est la coutume de réciter ce verset-là 2 fois par jour, le matin et le soir. Et ce n'est pas terminé. Il est la coutume aussi, au mois de Rosh Hashanah, de se souhaiter Shana Tova. Donc c'est important, on se souhaite mutuellement bonnes heureuses années.
Le
Et
faire.
donc, voilà. Et ça, c'est très important dans le judaïsme, toujours d'avoir des bonnes paroles, de bénir son prochain et de se souhaiter Shana Tova. Et aussi, une autre chose, il est coutume aussi d'inspecter, de vérifier les téphilines et les mezouzot. Alors, certains le font chaque année, à la veille de Rosh Hashanah, on vérifie les mezouzot pour assurer que elles sont cachères. Et je terminerai avec le Baal Shem Tov, vous avez certainement entendu parler. Lui, il a instauré la coutume de réciter chaque jour durant le mois de Elul, jusqu'à Kippour, 3 chapitres de psaumes. Le premier jour, le chapitre 1, 2, 3, le second jour, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Et donc, afin de terminer la récitation de tout le livre des psaumes à Kippour. Et donc, voici donc quelques conseils à suivre. Voici les minagim, les coutumes à suivre durant le mois de Elul.
Alors, nous allons terminer le mois d'Elul. On va plutôt commencer par un événement quand même qui est important, qui sont les Slichot. Et les Slichot qui tombent toujours le Shabbat, la sortie du Shabbat qui précède les fêtes de Rosh Hashanah. C'est un événement important. Pas connu par, je dirais, tout le monde, et pourtant, nous ne pouvons qu'inviter nos auditeurs à participer à cet office très particulier. Dites-nous rapidement, en quelques mots, en quoi consistent les slichot et pourquoi est-il si important, je dirais, dans notre tradition et dans notre liturgie.
Alors, c'est quoi les Silichot? Les Silichot, c'est une série de prières et de poèmes liturgiques dans lesquels nous implorons le pardon divin. Alors, selon la coutume ashkénaze, on la récite une semaine avant Rosh Hashanah, et ça commence toujours par samedi soir, déjà, donc le samedi soir. Pour la coutume séfarade, on commence déjà à partir de Rosh Chodesh Elul, tout le mois de Elul, le matin, la Silichot. Alors, Silichot, naturellement, c'est demander pardon. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, du grand jugement, et donc on essaye un petit peu de se préparer. Et donc samedi soir, dès la sortie du Shabbat, alors vous savez que dès qu'on est sorti du Shabbat, on rentre déjà dans la semaine, on entame la semaine de Rosh Hashanah, donc c'est la semaine qui inclut Rosh Hashanah, et donc déjà dès samedi soir, la première chose que le juif fait, c'est il demande pardon. Et la prière, c'est Selichot qui se récite, qui se chante le samedi soir, après la sainteté du Shabbat. Après avoir fait la Havdalah, où on a dit au revoir à Shabbat, et on n'a que les Selichot, on se retrouve tous dans les synagogues. C'est un moment solennel très important. Alors, j'invite les auditeurs à se renseigner auprès de leur communauté, et des Selichot, donc le samedi soir, dans notre synagogue, nous aurons une chorale qui va chanter les Selichot, parce que c'est un moment vraiment extraordinaire. Et donc, renseignez-vous, prenez des informations hors antenne sur les détails des Selichot, mais j'invite tous les auditeurs à se renseigner et à venir écouter ces belles mélodies chantées par la chorale et le chazan. Les Selichot du samedi soir.
Alors, pour terminer notre réflexion sur le mois de Elul, il y a quand même une date particulière, en tout cas pour une partie du peuple juif, qui est le 18 Elul. Chai Elul, qui est une date spéciale, et je dirais que c'est une date spéciale pour le monde chassidique. Vous avez parlé du Baal Shem Tov, là, on va faire le lien ici avec le chassidisme, mais expliquez-nous, avant de parler peut-être quelques mots sur le Baal Shem Tov et le chassidisme pour conclure cette émission, qu'est-ce que c'est
Alors,
exactement Chai Elul?
Chai Elul, c'est une date spéciale, c'est le 18e jour du mois de Elul, et c'est en premier lieu la naissance du Rabbi Yisroel Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement chassidique. Il est né le 18 Elul 1698. C'est aussi le 18 Elul, le jour de son 36e anniversaire en 1734, que le Baal Shem Tov commença à répandre, à promouvoir officiellement, si on peut dire publiquement, ses enseignements et la pratique du chassidisme. On peut dire que la révolution, on peut parler de la révolution chassidique du 18e siècle, a débuté en 1734. Et aussi, ce même jour, le 18 Elul, en 1745, naquit Rabbi Shneur Zalman de Lahdi, l'élève de l'élève du Baal Shem Tov, donc l'élève du Magui de Meseritch, qui sera le fondateur du chassidisme Chabad, de la Russie, Biélorussie, et donc plus connu sous le nom de Lubavitch. Alors, il me reste vraiment quelques secondes pour vous dire un petit mot, c'est quoi le chassidisme? Alors, le chassidisme, enseigné par Rabbi Yisroel Baal Shem Tov, tend à souligner et à révéler la potentialité illimitée de chaque individu, puisque la vraie valeur de l'individu se base sur son âme, sur cette étincelle divine. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que la révolution chassidique n'a pas introduit de nouvelles croyances, que Dieu préserve, mais simplement, elle a souligné certains principes fondamentaux de la foi et de la philosophie juive qui a été mise en veilleuse, si on peut dire, en raison de l'extrême souffrance et de l'antisémitisme à cette époque en Europe de l'Est et en général. Et donc, le chassidisme introduit et souligne l'importance de la joie, la simcha, hein, donc d'ailleurs dans notre paracha, du repliement de son peuple, de ne pas avoir servi, de ne pas l'avoir servi avec simcha. Vous savez, simcha, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui dans notre société. Des millions de gens souffrent de troubles dépressifs. Le bonheur, je pourrais dire, est un problème grave. Alors, vous savez, les maîtres chassidiques nous invitent à trouver, à surmonter les difficultés de la vie et à trouver le bonheur. Dans le bonheur, c'est un bonheur autogénéré. C'est pas un bonheur qui vient à partir de plantes, de stupéfiants ou à partir d'autre chose, mais ça doit venir de l'intérieur. Donc, avoir pensé positivement. On sait très bien qu'il y a eu des études récentes qui nous montrent l'effet de positivité sur le cerveau. Donc, tout ça, le Baal Shem Tov nous rappelle la ferveur, le cœur dans la prière. Et comprendre que chaque mitzvah que nous faisons, l'étude doit se faire dans une perspective d'attachement avec Dieu. Il faut voir toujours de quelle manière l'individu peut s'améliorer et améliorer la vie des autres autour de soi. Donc, c'est tout à fait détaché d'un égoïsme. C'est pas le moi, mais c'est le nous, et c'est ce qui nous noue avec Dieu par la simcha.
Oui, vous l'avez dit, il faut rappeler que à l'époque, le peuple juif est dans un contexte de grande persécution, et il sort aussi d'une période assez terrible qui va faire beaucoup de dégâts, qui est celle de Shabbat HaTzvi, de ce faux messianisme, et qui avait, je dirais, rendu extrêmement affligé et triste énormément de nos frères et sœurs de l'époque. Déçu évidemment que de cette promesse
Bien sûr, en fait, tout
de
ça, Shabbat suit Khmelnytsky, tous les pogroms en Pologne, en Russie, donc tout ça, il y a des souffrances terrible, et on cherche un petit peu un espoir. Chapetzi, c'est un espoir faux, mais le Baal Shem Tov va venir et va renforcer le judaïsme par la simcha, la
Exactement.
ferveur.
Il va avoir cette vision tout à fait, je dirais, fondamentale. C'est de redonner, je dirais, de la simcha, et avec la simcha, de l'espoir, évidemment, je dirais, dans la destinée humaine, et particulièrement de la destinée juive, qui, à l'époque, faut le dire, était bien, bien difficile.
D'ailleurs, le Baal Shem Tov dit, Simcha poretzet geder. Il soulignait l'importance que la Simcha fait exploser les limites, les frontières. Avec la Simcha, on peut surmonter toutes les difficultés. Ça, c'est vraiment très, très important.
Oui, on pourrait même dire mitzvah
Ah,
de
de Simcha, ouais,
la
bien
plus
sûr.
grande des mitzvahs,
Bien
finalement, c'est
sûr, bien sûr, bien sûr.
d'être en joie. Alors, Rabbi, vous avez parlé du Baal Shem Tov, dont on dit qu'il est le fondateur du chassidisme. Il y a des discussions aussi, c'est plutôt pas le Maguide de Meseritch, mais enfin, bon, on va pas rentrer dans
Le
ces
Maguide de
questions-là.
Meseritch était son élève.
C'est son
Le
élève.
Maguide de Meseritch a développé
Il a
la
beaucoup
philosophie
développé.
de son maître, bien sûr.
Voilà. Et le Baal Shem Tov est célèbre par un certain nombre, je dirais, d'aphorismes, de phrases tout à fait percutantes, des punchlines, comme on dirait aujourd'hui. Et je trouve intéressant, Rapidson, que pour conclure cette émission, que vous nous rappelez quelques aphorismes célèbres du Baal Shem Tov, qui vont peut-être redonner, en tous les cas, c'est l'espoir que l'on porte à nos auditeurs, je dirais, une certaine simcha, une certaine joie, une certaine force pour affronter cette fameuse convocation de Tishri qui va bientôt, arriver.
Alors, il y a une chose qui est très importante. Le Baal Shem Tov disait, aimer son prochain est une façon d'aimer Dieu. Car il est écrit, vous êtes des enfants de Dieu. Donc, quand on aime le Père, on aime ses enfants. Vous voyez, c'est vraiment un message extraordinaire. Aimer son prochain, parce que c'est un enfant de Dieu. Et donc, on ne peut pas aimer le Père en détestant ses enfants. Donc, vous voyez, c'est une leçon fondamentale.
Oui,
Le Baal Shem Tov, oui.
je rebondis, moi je me corrigerai si je me trompe, mais il y avait un aphorisme que j'aimais beaucoup du Baal Shem Tov qui disait que si on a un enfant, puisque vous parlez de la relation père-enfant, si on a un enfant qui est dans le mauvais chemin, qui fait que, il disait, aime-le davantage.
Bien sûr, il faut
Pour
le
le
bien
ramener.
sûr,
Je
bien
trouvais que
sûr.
c'était extrêmement fort, puisque le premier réflexe, quand on a un enfant qui est particulièrement, je dirais, difficile, qui est sur la mauvaise route, etc. On a plutôt tendance à avoir la réaction contraire. Et là, il dit non, aime-le davantage.
Vous savez, je vais vous raconter juste une petite histoire. J'ouvre une parenthèse parce que une fois à New York. Quelqu'un s'était plaint auprès du rabbi. Il lui demanda comment ça se fait qu'il donnait tellement d'honneur à certaines personnes qui sont vraiment tout à fait éloignées de la religion et qui transgressent tous les grands interdits. Donc pourquoi donne-t-il tellement d'attention à ces gens-là? Et le rabbi dit, vous savez, lorsqu'on a un enfant qui est malade, il faut lui donner encore plus d'attention et plus d'amour. Et spirituellement, c'est la même chose. Donc, celui qui est loin de la religion, le contraire, il mérite encore plus de l'amour. Et on voit ça avec Jacob et Ésaü. Isaac aimait Ésaü, son fils méchant, plus que Jacob. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'avec plus d'amour, il pouvait le faire revenir vers la vérité. Alors, un autre aphorisme du Baal Shem Tov, il disait, très important, toute chose qu'une personne voit ou entend est une instruction qui lui est adressée pour améliorer son service de Dieu. Donc il n'y a rien comme ça qui est du hasard. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, il y a une leçon à retirer. Alors vous savez, le Baal Shem Tov était très proche des gens simples à l'époque. Il y avait les érudits, qui étaient les talmudistes, ceux qui pouvaient se permettre d'aller dans les yeshivot, mais la majorité des gens n'avaient pas les moyens, il fallait travailler. Et donc, c'était que les riches qui pouvaient se permettre d'envoyer leurs enfants, leurs fils faire des hautes études, mais les autres, déjà, après la bar mitzvah, ils allaient travailler. Et donc, c'était des gens qui étaient un petit peu simples et qui venaient à la synagogue réciter. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est réciter des prières, chanter le Tehillim. Et il dit, l'innocente simplicité du juif simple touche à l'essence de Dieu. Le contraire, ces paroles de Tehillim, de ces gens simples, montent vraiment très haut. Alors, encore une avant de terminer l'émission. Il disait que Dieu est ton ombre, ça c'est le roi David qui le dit. De même que l'ombre d'une personne reproduit ses moindres gestes, ainsi Dieu, si l'on peut dire, répond à chacun de nos actes. Et sur ces mots, nous allons clôturer cette émission de Chazak Chazavim Chazak. Je vous souhaite déjà Shabbat Shalom, Shana Tova, et je vous invite la semaine prochaine à une nouvelle émission. On va parler de Rosh Hashanah la semaine prochaine, puisqu'on est vraiment, on se rapproche déjà de Rosh Hashanah.
Pas ça
Shabbat Shalom et Litraot.
Radio Judaïka vous souhaite Shabbat Shalom.